Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacques Morican. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici pour nous proposer et nous parler d'une projection qui va arriver le week-end du 14 octobre et qui se passera au Temple de Mirabel. Donc, est issu des productions de vidéos Val de Drôme, dont vous êtes le principal animateur.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Vidéo Val de Drôme a été créée il y a un tout petit peu plus d'un an. En réalité, notre activité a commencé il y a 18 mois et le projet, au fond, est de réunir un ensemble de témoignages sous forme d'entretiens vidéo qui retrace ce qu'a pu être la vie dans notre région, en gros entre Livron et le col de Cabre, si vous voulez. Et c'est ça que nous tendons à faire.
Pour ce week-end du 14 octobre, donc, vous proposez deux projections, l'une consacrée à Paul Allier, un boucher itinérant,
tout à fait.
Qui doit être connu du Diwa, je suppose.
Oui, bien sûr, il est très très connu dans le Diwa parce que c'était le temps effectivement des commerces itinérants. Donc on allait à Jonchère, on allait à Ousselon, etc., par des temps épouvantables, des camionnettes qui se mettaient en travers de la route. Enfin, c'était vraiment des aventures. Et en même temps, c'était pour les fermes isolées, une occasion de voir du monde. Dans le film que nous avons réalisé avec Paul Allier, il nous raconte que d'une ferme à l'autre, on veillait à être sûr qu'il soit bien arrivé, parce qu'avec la neige, on n'était pas jamais tout à fait sûr, ça dérapait, etc. Donc oui, ce temps des commerces indépendants nous raconte quand même, au-delà de l'aventure particulière de Paul Allier, ce qui a été toute une histoire du commerce, et l'histoire du commerce, c'est l'histoire de la vie, il ne faut jamais oublier ça.
Et puis, il y aura aussi donc André Raillon, si je prononce bien.
Oui.
Voilà, spéléologue. Ça, c'est tout à fait une autre démarche.
Alors oui, c'est-à-dire qu'il faut dire que dans le travail de mémoire que nous essayons de faire, cette espèce de grande capitale de vidéos que nous mettons à la disposition du public, il y a cette volonté de faire revivre un certain nombre d'expériences qui ont eu lieu dans tel ou tel village, parce qu'il y avait une caractéristique particulière. Et dans le cas d'espèce, c'est à Beaufort-sur-Gervanne que ça se passait. Il se trouve, je n'ai pas besoin de vous expliquer, que le Vercors est un gruyère, que donc, pour une jeunesse qui, au début des années 60, elle s'embêtait un peu, hein, il n'y avait pas de télé, pas de voiture, donc on circulait difficilement. Et il y a toute une jeunesse qui s'est passionnée pour la spéléologie et qui, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle a découvert, parce qu'effectivement, il y a des gouffres tout à fait intéressants, il y a une résurgence de la Bourne, par exemple, qui nous vient du Vercors, il faudra encore 4, 5, 6 générations avant qu'on ait exploré tous les conduits qui s'enfoncent en réalité depuis la Gervanne sous le Vercors.
On va revenir un petit peu à les productions de vidéos Val de Drôme. Donc, c'est une idée qui a émergé il y a un an environ.
Un peu plus.
Donc, qui est derrière ça, à part vous ?
Écoutez, alors, au début, je m'excuse de dire que c'était moi seul. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un nombre plus large d'informateurs. Pour ne rien vous cacher, à l'instant où j'enregistre avec vous cette émission, et je vous en remercie, je sors d'une rencontre avec un informateur d'Iwa qui nous a suggéré des gens à rencontrer. Parce que ces mémoires vivantes qui peuvent raconter ce qu'a été ce pays, vous savez, ils n'ont pas d'attaché de presse, ils n'ont pas de service de communication. Alors, il faut les trouver, ces agriculteurs, ces vieux artisans. Ici, nous avons également rencontré Jacques Planchon, qui est très loin d'être un personnage méconnu. Mais il a fallu qu'on fasse tout un travail avec l'association naissante, si vous me permettez l'expression, de draguer un peu pour trouver des informateurs, des gens qui pourraient nous dire dans tel domaine, il y a un tel qui pourrait vous raconter ceci, cela. Ici, par exemple, nous avons fait un film absolument merveilleux avec un berger. Gigi, connu comme le loup blanc un peu partout dans la région, Jean-Yves Girard, qui habite Auslon. Son film a eu une audience inouïe, il a été vu plus de 30 000 fois, enfin, c'est incroyable. Mais voilà, ces personnages, il faut les trouver.
Et voilà, et cette démarche donc de préserver une mémoire, disons, de personnes qui ont fait le territoire ou qui ont formé des choses, c'est quel désir au fond de vouloir, comment dire, transférer cette connaissance ?
Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je vais chez des amis et je vois arriver un jeune couple de gens dont la seule chose que je savais, c'est qu'ils étaient parisiens. À part ça, je ne savais rien d'eux. Alors, on est très embarrassé, on parle de la pluie, du beau temps, etc. Et puis, à un moment donné, la jeune femme qui était là dit « Oh, vous savez, on a trouvé un truc formidable. Il y a un site internet qui diffuse des vidéos sur la mémoire de cette région. » Alors, pour nous, c'est épatant parce qu'on ne connaissait pas l'histoire du pays. Eh bien, je me suis dit, ce jour-là, on a gagné. Parce que c'est exactement ça. Je pense que il y a, vis-à-vis de gens qui sont nouveaux venus, si vous voulez, qui peuvent ne pas très bien comprendre quels sont les raisonnements de gens qui sont ancrés depuis beaucoup plus longtemps ici, ce qui parfois est à l'origine de conflits, si vous voulez, de tensions, parce que la parole ne passe pas des uns aux autres. Par exemple, moi je dois dire que ce que j'ai appris au bout de 60 et quelques films, c'est la misère quand même. Nous venons d'un temps où cette région où nous sommes était véritablement misérable dans les fermes. Je ne suis pas tout à fait certain qu'à l'époque d'Internet et de Facebook, tout le monde soit bien conscient qu'ici, les vies ont été terriblement dures.
Cette démarche donc, de transmission de mémoire, vous pensez que c'est un travail de long terme ? Est-ce oui. que l'outil Internet, puisque c'est l'outil que vous utilisez principalement, saura perdurer cette démarche ?
Ah bah, moi, je suis de ce point de vue très confiant, à condition que cela ne soit qu'un des aspects l'activité. Vous avez rappelé en début de cet entretien qu'effectivement, nous participions, c'est pas la première fois, à une projection publique. Parce qu'en même temps, il faut que ça contribue, si vous voulez, au caractère chaleureux des rencontres entre les gens, qui d'ailleurs, j'en suis sûr, vont venir nous voir en nous disant « Dites donc, mais vous avez pensé à machin ?» Et je dois vous dire, le nombre de fois où on se disait « Oh bon sang, on ne savait pas qu'il existait celui-là. » Eh bien, ça justement, c'est la rencontre véritable, la rencontre d'homme à homme, d'homme à femme, etc., qui le permet. Donc, si vous voulez, c'est vrai que Internet a l'énorme avantage de mettre à disposition, à un prix raisonnable, nos vidéos, mais il faut qu'on puisse aller au-delà, et en particulier drainer tout le savoir des gens qui ont entendu des histoires. Par ailleurs, il faut dire que nous, on se cheville volontiers avec l'activité d'association. Je vais donner un exemple. Vous savez peut-être que la commune d'Oust a eu pendant des siècles une papeterie qui a changé de main, mais qui est dans l'imaginaire de cette localité. Quelque chose d'absolument... tout le monde sait qu'il y a eu une papeterie à Oust. Si vous ne savez pas comment lancer une conversation avec un Oustois, commencez à parler de la papeterie, ça marchera à tous les coups. Eh bien, il y a actuellement un effort tout à fait sympathique pour revivifier la mémoire de cette papeterie qui a fermé en 2010 sous son dernier avatar. Nous, bien entendu, très volontiers, nous faisons un film sur ce travail de mémoire, car en effet, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent en parler. Ce faisant, eh bien, écoutez, si ça aide les associations qui se lancent là-dedans, c'est parfait. Elles nous aident parce que précisément, elles nous disent « mais vous devriez aller voir machin, vous devriez aller voir chose, etc. etc. » Donc, il y a quelque chose qui se cheville avec des initiatives locales. Je vous parlais un instant d'Oslon. Eh bien, pour les Journées du patrimoine, nous sommes montés à Oslon pour faire une projection d'un de nos films. Si ça contribue à l'animation locale, c'est parfait.
Derrière cette démarche donc de transmission de la mémoire et des personnages que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous voulez signifier au public ?
Quelle est la phrase célèbre ? Déjà, je l'ai oubliée. Lorsque l'on ignore son passé, on se condamne à devoir le revivre. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on n'arrive pas à planter des vies nouvelles, si je puis dire, si on ignore ce que sont les caractéristiques d'un terroir et ce qui a marqué les populations locales. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai rencontré un aménageur d'Iwa, dont je suis obligé de reconnaître que j'ai oublié le nom, et qui me disait, voyez-vous, il y a 30 ans, on voyait arriver des populations nouvelles, mais au fond, qu'il y avait des projets agricoles. Donc nous, l'agriculture, on comprend, on sait comment guider et intégrer ce genre. Et puis maintenant, voilà, c'est très différent. Maintenant, nous voyons arriver des gens qui veulent vivre à la campagne, mais dont la structure mentale est une structure mentale urbaine. Et là, ça pose des problèmes quelquefois extrêmement pratiques. Je pense à la fibre optique, par exemple, la nécessité d'être extrêmement bien équipé dans des domaines qui sont quand même des domaines extrêmement urbains. Et ça pose des problèmes. Moi, je pense que le but ultime de ce à quoi nous allons arriver, c'est la compréhension, c'est la meilleure compréhension, c'est donc la meilleure intégration de gens, parce que c'est pas vrai. On n'arrive jamais au milieu de nulle part. Ça, au milieu de nulle part, c'est un mensonge total. On arrive dans des endroits qui ont des mentalités. Ces mentalités s'expliquent par des vies. Il se trouve qu'au surplus, les vies que nous avons eues dans cette région sont des vies dures. Franchement, hein, je ne suis pas tout à fait certain que tout le monde mesure bien ce qu'a été la dureté des vies dans nos campagnes. Et par conséquent, si on y contribue, je dis chapeau à nous, si j'ose.
Donc cette démarche dont vous avez signifié le sens à l'instant répondait à une incompréhension que vous éprouviez sur ce qui se passait justement.
Moi je trouvais, n'est-ce pas, j'étais journaliste pendant 45 ans et j'ai vu évoluer les technologies et j'avais un petit regret, c'est que les technologies tout à fait contemporaine, soit certes remarquablement utilisée à des échelles planétaires et même à des échelles nationales, mais que aux échelles locales, vous en êtes un exemple ici à Radio Diwa, les technologies les plus performantes étaient moins utilisées et du coup, la mutation que doit subir, à mon avis, l'information locale ne parvenait pas à se faire. J'espère que nous sommes en quelque sorte un laboratoire, si vous voulez, de l'utilisation de technologies qui sont les mêmes, hein, au fond, que les grandes télévisions dont on entend parler, je veux dire du point de vue conceptuel, mais rapportées à notre réalité.
Alors ce travail que vous effectuez depuis une année a un coût et comment vous arrivez à subvenir à cette démarche ?
Alors là c'est extrêmement simple, c'est pour l'essentiel des dons de particuliers. Je ne peux que encourager ceux qui nous écoutent à s'y ajouter. Il y a eu, pour être très exact, 8 communes qui ont bien voulu nous voter des subventions, rien d'autre. Et encore, dans ce que je viens de vous dire, je ne tiens pas compte du fait que le matériel qui est quand même un tout petit peu important, qui est mis en route là, est un matériel qui est prêté par les membres, mais je veux dire par là très clairement que l'association n'a pas aujourd'hui les moyens de posséder du matériel en propre, si vous voulez. J'espère, ça c'est vraiment un de nos projets, nous allons d'ailleurs lancer un financement participatif là-dessus, j'espère que dans les mois et les années qui viennent, nous trouverons les moyens d'avoir un équipement propre. Pour le moment, on fonctionne sur les équipements de nos adhérents et c'est bien la preuve que nous sommes pauvres.
Alors, vous avez une soixantaine de vidéos, hein, c'est ce que...
Oui, 61.
Une soixantaine,
j'en deux.
Qui sont visibles sur ce site, donc les productions alors, de vidéos ou il
oui,
y en a d'autres?
Alors, excellente question. Alors, nous avons en particulier un site internet tvvaldedrome.eclablog.com où on trouve à peu près toutes nos vidéos. Mais ce serait très insuffisant, nous n'obtiendrions pas ce chiffre d'environ 1000 vidéos vues par jour si nous ne passions que par là. Nous avons nous utilisons énormément Facebook et en particulier les groupes Facebook, pas n'importe quel Facebook, les groupes Facebook, les groupes thématiques pour faire connaître les vidéos que nous faisons. Évidemment, en fonction de leur thème. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous avons fait la vidéo relative au boucher dont vous parliez tout à l'heure, nous l'avons annoncé dans tous les innombrables groupes qui se passionnent pour la nourriture. Et laissez-moi vous dire qu'il faudrait parler jusqu'à ce soir pour les énumérer tous. Voilà. Alors ça joue un rôle très important. Nous avons par ailleurs des mailing lists qui sont importantes. Et c'est la somme de tout ça nous permet d'exister. Jamais notre seul propre site TV Val de Drôme ou Histoire Gervanne ne suffirait à arriver, je dois dire, je suis obligé de vous dire, moi je suis très satisfait des résultats. On peut dire aujourd'hui qu'à peu près chaque film est vu au minimum 800 fois, ce qui me paraît, moi je suis assez content, hein, franchement, mais c'est la somme de tout ça qui permet d'y arriver.
On pourrait rappeler juste aux auditeurs peut-être le nom du groupe Facebook.
Alors, tvvaldedrome.eclablog. Ah, du groupe
Facebook.
Alors, sur il y a un groupe qui s'appelle Vidéo Val de Drôme sur Facebook. Vous tapez, vous trouvez l'annonce. Alors là, chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo, on le trouve là sur Facebook. Oui, Vidéo Val de Drôme.
Vous opérez les diffusions de ces vidéos sur le site, mais vous avez aussi certainement une préférence pour une projection publique. Donc c'est ce qui est proposé là le 14 octobre et vous parliez d'Auslon lors de la journée du patrimoine. Est-ce que c'est une démarche qui vous tient à cœur d'être aussi à la rencontre des spectateurs?
Énormément, parce que je crois que vous savez, il faut qu'on fasse preuve d'énormément de modestie, surtout lorsqu'on est, comme vous et moi, dans des médias. En réalité, on n'a pas toujours suffisamment d'informateurs. Et les informateurs, il n'y a pas de mystère. On les rencontre justement dans des circonstances de genre. Je pense que du reste, parmi les problèmes de notre pays, plus généralement, bien au-delà de ce dont nous sommes en train de parler, le problème de l'absence de contact avec le terrain est la pathologie de l'époque, si vous voulez. Malheureusement, il faut bien dire que Internet y contribue. Mais parce que pendant qu'on est devant un écran, on n'est pas dans la rue. On a besoin d'être justement dans la rue par l'intermédiaire de ces projections publiques, sachant que, comme nous sommes encore vraiment une toute petite association, c'est pour nous un problème encore d'organiser ces projections. On n'est pas tout à fait équipé, il faut qu'on emprunte du matériel à gauche, à droite, enfin bref, je vous épargne les détails. Mais si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de descendre dans la rue, quoi.
Moi, je pense qu'il y a pas mal de matériel sur le Diwa hein, qui pourrait permettre des projections telles. Et il suffit que les personnes se rencontrent ou se reconnaissent. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un lien Facebook aussi. Moi, je voulais parler de Mirbel et Blacon, puisque c'est là que ça sera projeté. Pourquoi Mirbel et Blacon? Ça devient un pôle audiovisuel sur le département?
Ah oui, alors d'abord, je vois à quoi vous faites allusion au fait qu'il y a eu récemment un festival qui s'appelait Ad Hoc et où en effet se sont réunis un certain nombre de réalisateurs. Non, je vais vous faire remarquer que, et ça c'est tout à fait pile dans notre cible, que l'association qui nous invite, l'association Mirabel, s'appelle justement pas l'association Mirabel et Blacon. Et pourquoi? Eh bien parce que, on a complètement oublié que Mirabel au fond fut un village abandonné. qu'il y a eu un moment où il n'y avait plus du tout de population. Et voilà, typiquement, des choses qui, nous, à Vidéo Vélodrome, nous intéressent énormément, c'est les histoires des renaissances. Je suis en train, au moment où je vous parle, de tourner un film sur Cobonne où c'est exactement la même histoire, c'est-à-dire un village où il n'y avait plus rien, c'était zéro, et où uniquement l'effort de passionnés a réussi à faire repartir ça. C'est ce qui est en train de se passer à Mirabel. C'est pour ça qu'on est si content, si vous voulez, de se cheviller avec ces efforts-là. Et si notre projection s'ajoute au catalogue, si j'ose dire, des animations de cette excellente association, alors là, j'en suis enchanté.
J'ignore où vous vivez actuellement.
Beaufort-sur-Gervanne, c'est le centre du monde.
D'accord. Et donc, vous vous intéressez à un territoire qui pourrait correspondre à quoi ?
Ben, écoutez, l'Auriol, le col de Cabre, pour moi, le critère a été simple. Entre qui est-ce qu'on se mariait ? Entre qui est-ce qu'on faisait du commerce ? Où est-ce qu'on déménageait pendant, si vous voulez, les 50 ou 80 ou 100 ans qui nous ont précédés ? Quelle était la réalité des échanges humains ? Quelle était la zone dans laquelle ça se pratiquait ? Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant, je suis sûr que si on sortait ensemble dans la rue, vous me présenteriez un Afghan qui vient de s'installer à Die et qui... Bon, les choses ont très profondément changé de ce point de vue-là. Mais je crois que vraiment la géographie humaine, c'est capital et il est essentiel d'intégrer ce qui sont les mouvements humains les plus naturels. Le mouvement naturel, c'est le commerce. Le mouvement naturel, c'est les mariages, l'amour. Et puis, c'est là où on va essayer de trouver des terrains pour cultiver des champs, etc. Et on ne va jamais beaucoup plus loin que 30 ou 40 kilomètres. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, de Livron au col de Cabre, c'est notre territoire.
Voilà, suite à cette soixantaine de réalisations, vous êtes certainement forgé, une carte territoriale et un peu de la mentalité aussi. Et hormis le côté misérable que vous citiez auparavant, qu'est-ce qui ressort de tous ces lieux ?
Nous sommes des cabochards. Je crois que l'histoire que nous racontons est l'histoire de cabochards. Et je crois que si aujourd'hui, un certain nombre d'initiatives, dont votre radio d'ailleurs, et dont beaucoup d'émissions dont on parle dans votre radio, beaucoup d'initiatives ont justement ce côté un peu, est-ce que j'ose dire, résistant, enfin n'allons pas trop fort non plus, mais une volonté de trouver de nouvelles solutions, ça remonte... à des siècles. Je vais vous raconter une histoire. Je me passionne pour les vieilles publications. Vous avez naturellement entendu parler de l'expérience de Saillant qui se présente comme alternative. Tout le monde connaît ça. Figurez-vous que j'ai trouvé dans une vieille publication qu'au XVIe siècle, s'il vous plaît, monsieur, les décisions pour la commune étaient prises démocratiquement sur la place du village, etc. Ça prouve qu'au fond, vous avez des espèces de caractéristiques, des chromosomes qui remontent extrêmement loin. Pour ma part, je crois par exemple que les traces religieuses, si vous voulez, ont beaucoup d'importance et je suis parfois agacé d'ailleurs par une forme de laïcité qui conduit à l'ignorance. Il est capital de prendre acte que ce pays a été profondément marqué par le protestantisme, lequel, à son tour, avait été profondément marqué par la persécution, ce qui explique, par exemple, nous avons consacré un film déjà à ce sujet, tant de juifs aient pu être cachés ici parce qu'il y avait cet esprit cabochard. Et ça, je crois que si on doit donner une dominante, alors, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on soit pauvre ? Parce qu'on n'est pas riche ici. Hein. Je dis toujours que si on devait emmener un sociologue dans notre pays, il faut le mettre à une terrasse de café puis il regarde passer les voitures. C'est rien que des poubelles. Parce que les gens n'ont pas les moyens de se payer les... Mais il y a probablement un lien, si vous voulez, entre les deux choses. Le fait qu'on ne soit pas riche et le fait qu'on soit cabochard.
Je reviens sur les voitures. Vu que la législation et les contrôles techniques vont être de plus en plus stricts, est-ce que c'est pas cacher un peu la misère, justement ?
Oui, ça peut être. Mais je suis sûr avoir en particulier la passion cycliste qui s'empare de la région et le nombre de ceux qui promeuvent le vélo électrique, qu'on va trouver des solutions alternatives ou encore tout ce qui tourne autour du covoiturage. Mais je veux dire, pour moi, c'est un symptôme. Je suis très frappé, en particulier, de regarder les résultats des recensements et de voir qu'un certain nombre de communes qui étaient, si vous me permettez, sans les offenser, moyennes, semblent monter du point de vue du niveau de vie en grade. Pourquoi ? Parce que le coût de l'immobilier augmente tout simplement parce qu'il n'y a plus de terrain. C'est pas compliqué. Ce qui fait que des communes extrêmement éloignées, qui pendant longtemps ne pouvaient pas espérer d'arriver des populations nouvelles, eh bien, en voient arriver. Je viens d'apprendre qu'à Jonchère, il y a un jeune couple qui vient de s'installer. Excusez-moi, mais aller s'installer à Jonchère, franchement, bon, c'est pas tout à fait la porte à côté, mais c'est un signal, si vous voulez.
Vous êtes vous-même issu du coin ?
Oui, tout à fait.
Et donc, vous êtes un enfant du pays et vous l'avez vu changer, ce pays ?
Ah oui, bien sûr, oui, énormément. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis d'une vieille lignée, je dois dire huguenote, de Beaufort-sur-Gérone. C'est des gens qui ont fui à un moment donné dans leur généalogie ancienne, au moment des persécutions, puis sont venus ici parce qu'on pouvait se cacher facilement. Et vous remarquerez que les villages où il y a eu le plus d'implantations protestantes, comme par hasard, étaient les villages les plus éloignés de la gendarmerie, la plus proche, parce que les gars, il fallait qu'ils prennent des précautions quand même. Moi, je suis le lointain héritier. Bon, j'ai fait beaucoup de ma carrière à l'étranger, mais ça n'a pas d'importance. Je suis le lointain descendant de ce type d'évolution. Et effectivement, je pense que le fait que maintenant, notamment en raison des coûts urbains formidablement élevés, et puis il faut le dire, le désagrément qu'il peut y avoir à vivre en ville, la montée de nouvelles populations vers nous, est indiscutablement fait surgir des demandes nouvelles dans les modes de vie, des besoins de services. Moi, dans mon propre petit village, c'est un bonheur, mais de voir simplement tout ce qui est nécessaire pour un nombre d'enfants que, Seigneur Dieu, qui n'existait pas il y a 30 ans. On n'avait pas d'enfants. Maintenant, les enfants, il faut faire attention lorsqu'on traverse, alors.
Et puis, parmi toutes les personnes que vous avez interviewées ou filmées, est-ce qu'il y en a une qui a retenu, qui vous retient le plus en mémoire ?
Oh, vous savez, est-ce que
c'est
je
une
pour...
question difficile.
Oui, c'est une question parce que effectivement, j'en ai. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis très très fier d'une censure que j'ai faite. Et je dis tout de suite, en l'assumant totalement à votre micro, que je recommencerai demain. Mais parce que ça prouve le niveau de confiance. Nous sommes, n'est-ce pas, téléplouc, si vous voulez. Nous sommes une télébrouette, télé dans le terroir. Ça fait que la relation qu'on a avec les gens qu'on interviewe est une relation de confiance. Et un jour, j'ai interviewé une femme qui m'a parlé, elle m'a raconté sa vie de fermière, etc., etc. Et puis arrive le récit de la guerre. Vous savez probablement que ici, dans notre vallée de la Drôme, sont arrivées des armées qu'on a appelées improprement cosaques, alors qu'en réalité elles étaient ukrainiennes. C'étaient les armées du général Vlassov, dont il est de notoriété publique elles ont brûlé des fermes. Enfin, leur fonction était de faire la terreur. Elles ont brûlé des fermes et elles ont violé des femmes. Et cette dame qui parlait à mon micro m'a dit que sa sœur avait été violée par elle. Alors, je vous dis tout de suite, vous pouvez chercher dans tous les films, ça y est pas. J'ai évidemment coupé ce passage. Mais en revanche, ça veut dire qu'il y a téléconfiance, si vous voulez. Ça veut dire que il s'instaure entre nous et les gens qui, que nous sollicitons, heureusement, un climat tel que des choses... moi, franchement, j'étais effroyablement embarrassé lorsque c'est sorti pendant l'enregistrement. Mais je suis en même temps très content que ce niveau-là de confiance puisse être atteint.
Ouais, là, c'est une question que j'ai envie de vous poser à chaud. Pourquoi cette réaction pour cette histoire de viol
Réaction, vous voulez dire quoi
Par rapport à la censure
C'est-à-dire que si vous voulez, moi je pense qu'il faut qu'à l'issue de nos films, ils ne portent pas préjudice à ceux qui ont bien voulu nous recevoir. C'est quand même l'ultra minimum que nous devions aux gens qui nous accueillent, d'autant plus qu'il arrive évidemment que des gens ne mesurent pas très très bien la portée de leurs paroles. Par exemple, dans le contexte du fait que je rappelle qu'Internet est visible dans le monde entier. Hein, il ne faut pas oublier ça. Si telle confidence restait dans les limites villageoises, telle et telle... Bon, d'accord. En l'occurrence, ce n'est pas de ça dont on parle. Donc, par ailleurs, il peut arriver, notamment dans ce cas-là et dans d'autres, que ça porte préjudice à des proches, sans qu'on y ait pensé, des enfants, des petits-enfants, etc. Alors, je n'ai absolument aucune gêne à vous dire ce que je viens de vous dire. Je veux dire, pour qu'on ait un rapport de confiance avec les gens, il faut qu'ils puissent savoir que si jamais il y a quelque chose qui pourrait leur porter préjudice à leur image, évidemment, nous les épargnerons, ça c'est sûr.
Et puis, il y a le médium Internet, mais est-ce que vous envisagez d'autres médiums, c'est-à-dire des DVD ou des choses comme ça ?
Alors, non, le point où... Moi, j'ai eu une carrière assez longue en presse écrite aussi, et le point où je pourrais imaginer qu'on s'aventure, c'est l'édition. C'est-à-dire que c'est vrai que... d'abord, il y a toute une génération pour qui regarder Internet n'est pas du tout évident. Ça pourrait être vrai que on édite des livres, notamment par le fait que, si vous voulez, les informations que nous recueillons chez les uns puis chez les autres se conjuguent entre elles, et il nous appartient de faire le travail de synthèse qui permettrait de comprendre que ce que nous a dit X et ce que nous a dit Y, eh bien finalement, ça se recoupe, éventuellement ça se contredit, hein, ça peut se trouver aussi. Et ça, c'est quand même, il faut dire, vive le livre. C'est le livre qui permet ça le mieux.
Et puis, l'histoire, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à devenir journaliste ? C'est une passion, l'histoire, pour vous ?
Alors, Ça l'est devenu par la suite. Je suis devenu journaliste comme tout le monde, si j'ose dire, c'est-à-dire en me racontant des histoires sur le métier, qui est pas tout à fait ce que je pouvais croire. On se fait des films lorsqu'on est très jeune, et on se raconte des histoires pleines de panache et de fureur. Ceci dit, j'ai eu une carrière tout à fait que j'ai adorée. Enfin, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Mais ce qui est vrai, c'est que ayant interviewé, mais je ne sais pas, probablement plus d'un millier d'historiens au long de ma carrière, j'ai eu autant de professeurs, si vous voulez, qui m'ont énormément sensibilisé sur à la fois des connaissances historiques, d'une part, mais deuxièmement sur une méthode. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un métier très, 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 très sérieux, historien. Hein. Il ne suffit pas d'avoir été 4 fois aux archives départementales. Hein. Moi, oui. Maintenant que j'ai beaucoup plus de liberté, je suis très content de pouvoir mettre au jour, par ces films et par ces témoignages, la chair des choses, si vous voulez. Parce que les gens, ils nous parlent à la première personne du singulier, si vous voulez. Ils nous portent le témoignage de ce qu'ils ont vécu. C'est la chair de la vie. C'est vraiment comment les choses se manifestent au quotidien, les petites choses. Moi, je pourrais vous faire une saga des lessives, par exemple. Je crois que personne ne se représente ce qu'a été, mais pendant des siècles, il faut bien le voir, le simple problème de rincer la lessive. Parce que dans 90 cas sur 100, il fallait descendre en brouette dans la rivière qui était par définition au fond de la vallée. Des rivières en sommet de vallée, ça n'existe pas, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, c'était... Mais attendez, c'était horrible. C'était transporter des poids considérables. Et à l'époque, c'était un travail de femme. Il n'était pas question que les hommes s'en mêlent. Je suis pas sûr qu'on se représente bien ça. Je suis content que par notre travail, on puisse, au-delà des événements, des dates, telle date, etc., donner de la chair aux choses.
Les productions de vidéos Val-de-Drôme, est-ce que vous envisagez d'étendre encore plus au-delà même du territoire ?
Non. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a un point extrêmement important. C'est que, une fois encore, c'est la géographie humaine qui gouverne. Et puis d'ailleurs, entre nous soit dit, vous m'interrogez sur Vidéo Val-de-Drôme, je vous réponds volontiers, mais ça gouverne tout. Hein, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir lancer des grands programmes politiques sur des unités géographiques qui ne tiennent pas debout. Ce disant, par exemple, je parle au découpage des communautés de communes actuelles. Je veux dire, il n'a aucun sens actuellement. Celle du Diwa correspond à une réalité géographique. Les deux autres qui vont en direction de l'ouest et de la vallée du Rhône ne correspondent à rien. Je veux dire, il n'y a pas besoin de deux communautés de communes, ça n'a aucun sens. Eh bien, nous, c'est pareil. Pour que notre action soit cohérente, il faut qu'elle corresponde à un bassin humain où les gens véritablement ont eu des échanges, où on peut se reconnaître. Il est vrai que si, par exemple, je proposais à nos téléspectateurs ou enfin aux internautes un film sur le milieu de la chaussure à Romans, bon, ici, il n'y a aucune tradition de cette sorte. Alors, je ne dis pas que par la curiosité, on ne va pas... Mais il y a un effet de miroir. Il est naturel que le public ait envie de reconnaître les siens à travers ce que nous leur proposons. Donc, de la même manière, il est indiscutable que le Nyonsais, par exemple, a obéi à des logiques humaines, a vécu des aventures qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons pu connaître. L'unité humaine... où véritablement il y a quelque chose de cohérent et de solide, va de la vallée du Rhône au col de Cabre. Et encore, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des mutations qui se font. La partie très urbaine autour du Livron-Loriol, etc., j'ai presque envie de dire d'une certaine manière, elle se détache, si vous voulez, de cet ensemble. Parce que maintenant, elle est vraiment dans une logique de conurbation, Valence, Livron-Loriol, Montélimar. Et là, c'est un tout petit peu, vous savez, lorsqu'on allait à l'école, on nous parlait toujours de Lille-Roubaix-Tourcoing, ben c'est un peu la même logique. Et on n'est plus du tout dans... On est un peu moins, en tout cas, dans cet axe de la vallée de la Drôme qui va au col de Cabre. Donc, clairement, non, nous ne nous étendrons pas géographiquement.
Mais l'époque aujourd'hui est grâce aussi à la technique où l'information circule de plus en plus vite et de plus en plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question justement de ce principe de ruralité ou de territoire ?
Je vais vous donner immédiatement un chiffre. 15% de la fréquentation de nos vidéos est à l'étranger. Donc déjà, ça nous envoie une information, c'est que 15%, ce n'est pas négligeable, et que le fait de parler d'un territoire qui est très typé, comme le nôtre, ne dégoûte pas des gens qui sont en Allemagne. Je regardais les pays qui sont les plus concernés, c'est la Belgique, la Suisse, le Canada et l'Algérie. Franchement, j'ai un peu de peine à comprendre comment un Algérien se passionne pour ce qui se passe à Jonchère. Mais c'est une réalité. La deuxième chose, c'est vraiment l'attention du local à l'universel. C'est parce qu'on a les pieds bien plantés dans le terroir et qu'on est capable de le raconter correctement et de façon vivante que je crois autant à l'universel, si vous voulez. Parce que bien que, continuons sur l'exemple de l'Algérie, bien que certainement en Algérie, les modes de vie étaient complètement différents, en revanche, les ressorts qui ont fait vivre des Algériens dans des contextes qui n'ont rien à voir avec les ressorts, et je pense en particulier à la valeur travail, qu'on peut observer au pied du Vercors quelque part, c'est les mêmes. Simplement, la concrétisation n'est pas la même. Après, il y a des adaptations, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas capituler ces couleurs, mais au contraire montrer ce à quoi elles se rattachent d'universel.
Et puis, on peut parler aussi du reportage proprement dit. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'opère justement un travail vidéo sur une personne ?
Alors, écoutez, vous aurez peut-être remarqué si vous regardez nos vidéos que nous filmons selon deux angles de vue de façon à ce que ce soit plus rythmé, le film soit plus rythmé. Donc ça veut dire très concrètement qu'il y a évidemment deux caméras, donc il y a deux personnes, enfin c'est-à-dire un ami, Gilles Zuereff, et moi-même, qui sommes les opérateurs d'une part. Alors il y a un entretien qu'on pourrait tout à fait imaginer que ce que vous êtes en train de faire avec moi soit filmé, ça reviendrait au même. Et puis alors, le deuxième point capital, ça c'est moi qui m'en occupe, qui est le point du montage, et donc par conséquent de la réalisation, pose l'énorme problème des archives que nous exhumons. Alors, c'est vrai que vous faites le calcul, on a rencontré 61 personnes au moins. Alors on demande toujours la complicité des personnes de nous sortir des photos qu'elles peuvent avoir dans leurs albums, etc. Ce qui permet de visualiser, parce que c'est vraiment le problème, c'est de rendre par l'image des vies qui sont des vies passées. Alors je dois dire que pas plus tard que hier, dans la vallée de Cobonne, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui en plus avait conservé des films. Alors là, c'est la bénédiction, vous comprenez, parce que on peut utiliser ces films pour illustrer les propos de nos interlocuteurs. Donc très franchement, je veux dire, on est modestement équipé. Ceci dit, je ne rougis pas de la qualité, en particulier de la qualité d'image. Ayant travaillé pendant 30 ans au moins dans des radios, je suis un petit peu plus exigeant sur le son et je suis un peu embarrassé quelquefois de la qualité de notre son parce qu'on a des matériels qui sont un peu déficients. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent, d'ailleurs, parce qu'il faut acheter du matériel de son que ce soit de bonne qualité. Mais voilà. Et puis alors, tout à fait à la fin, nous avons une amie, Bianca Kempfer, qui, en quelque sorte, son métier, elle était productrice d'une émission de télévision à la télévision suisse romande. Et donc, elle a dû, au cours de sa carrière, voir passer, je sais pas, des milliers de documentaires. Et donc, elle est très bonne juge. Et avant que nous mettions à l'antenne, si vous voulez, notre film, elle le visionne. Et alors, oulala, attends, non, mais là, c'est long. Oh là là, on s'ennuie, ça va pas. Ou bien, attends, mais pourquoi on pourrait pas ici mettre ça avant ou après ? Donc, si vous voulez, si on était en train de parler d'une industrie tout à fait classique, on dirait que c'est le service qualité. Hein, on pourrait définir ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a un peu la tête dans le guidon. Hein, on voit pas toujours passer les bêtises. Et donc... elle nous sert à cela. Voilà comment se construit un de nos films.
Et quand vous abordez une personne à venir la voir avec tout ce matériel, il y a une spontanéité d'ouverture pour s'exprimer chez la personne ou alors des fois ça commence avec quelques réticences ?
Alors non, écoutez, je vais vous dire quand même une chose. De ce point de vue, la modernité, c'est pas mal hein, quand même, faut pas se plaindre. Parce que il est vrai que le fait qu'on ait maintenant des très bons équipements vidéo qui sont peu visibles, qui sont pas gênants, dont la présence n'est pas gênante. Nous enregistrons cette émission en ce moment dans votre studio qui est bardé de micros dans tous les sens. Vos micros se voient beaucoup plus que se voit ma petite caméra qui, bien qu'elle soit de bonne qualité, est toute petite. Et donc, au bout d'un moment, on oublie. Et ce moment n'est pas très long. Donc, par ailleurs, moi, je considère alors véritablement que le cœur de notre métier est de savoir donner aux gens l'envie de dire la vérité, c'est-à-dire ne pas se sentir gêné, si vous voulez. De ce point de vue, je considère que c'est vraiment mon métier, je dois savoir faire ça, et j'espère qu'au bout de 45 ans, je sais un peu le faire.
Je reviens aussi sur les archives. C'était un désir aussi donc, de récupérer des archives filmées ou vidéos aussi pour illustrer vos documentaires.
Il y a un enjeu majeur, décisif, considérable, en particulier pour des petites localités, des localités qui changent beaucoup, d'avoir un appareil d'archives aisément accessibles, aisément visualisables, qui permettent, une fois encore à des populations nouvelles, de comprendre où elles arrivent. Je considère que... Moi j'ai une fille, par exemple, si vous voulez, qui est une fille de 26 ans. Bon, je vois bien que sa culture est largement une culture d'image. Très, 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 très largement. Alors, bien sûr, il y a des revues formidables. J'en ai une juste en face de moi, la chronique du Diwa, qui est absolument épatante, et que je m'empressais de m'abonner, d'ailleurs. Mais il faut reconnaître que ce sont des choses qui supposent une certaine attention pour le voir. Il faut sauver les images de nos terroirs, qui sont souvent des images... qui sont chez les particuliers, sous toutes les formes, et en particulier éventuellement les films qui ont été films familiaux qui ont pu être tournés, parce que le langage peuvent comprendre en particulier les générations contemporaines pour saisir le territoire passe par cela. Et si vous permettez, je voudrais juste terminer en disant ceci. Vous avez peut-être compris que j'aime beaucoup la géographie, parce que je considère que la géographie est un fait qui est 100 fois plus fort, si vous voulez, par exemple, que la politique, parce que la géographie, ça tient des siècles durant. Hein. Vous ne trouverez pas beaucoup d'exemples de changements notables, sauf, c'est vrai, dans le Diwa. Pour comprendre la géographie d'une région et les contraintes par conséquent qu'elle impose au mode de vie, en particulier au mode de transport, la plupart du temps, il faut avoir des images aériennes qui coûtent une fortune à réaliser. Et je vous avoue qu'une de mes ambitions serait, tout en laissant ces images ensuite à la disposition de qui veut, mais de pouvoir les financer, ce qui coûte très cher. L'heure d'hélicoptère, c'est vraiment extrêmement cher et ça demande d'être extrêmement bien fait. Mais je regrette beaucoup, si vous voulez faire comprendre à un Belge ou à un Algérien, ce que c'est que le Val-de-Drôme, il n'y a qu'une solution, c'est de le faire survoler en hélicoptère. Ou en montgolfière, mais c'est un peu plus long quand même. Et ça, il y a une dimension didactique, qui est d'ailleurs très présente dans nos films. Nous sommes très attentifs, nous avons fait un film sur les Vaucons, pour que les gens comprennent bien d'où on venait du point de vue de l'histoire lointaine. Cette dimension didactique, ça passe par l'image aérienne. Et actuellement, ces images n'existent pas.
Et il y a l'avènement du drone qui arrive quand même, avec une certaine qualité, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est une démocratisation de ce type de vue, justement ?
Alors, la première réponse est oui, vous avez raison. La deuxième réponse, malheureusement, la géographie, une fois de plus, a raison, c'est que nous sommes dans une région vantée. C'est-à-dire que les drones, c'est rudement bien, mais dans des régions où il n'y a pas beaucoup de vent. Ou alors, à ce moment-là, vous filmez toujours au même moment, avec les mêmes saisons, c'est-à-dire des périodes extrêmement calmes. Alors, on peut, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Je dis que souvent, lorsqu'on veut le faire, à ce moment-là, il faut non pas s'amuser avec un drone de jardin, mais demander à des gens qui sont des grands spécialistes de ces questions. Ce n'est pas facile de bien piloter un drone. Et alors, c'est peut-être un peu moins cher que l'hélicoptère, mais moi, à ce moment-là, quoi qu'il en soit, je préférerais m'adresser à des professionnels. Donc, je pense qu'il y a un manque là, parce qu'il y a toute une compréhension de notre région qui est impossible parce que les gens ne se représentent pas à quoi ressemble le territoire.
Mis à part Google Earth, qui permet visualisation en 3D du territoire, mais ça reste quand même un petit peu frustrant, dirais. Eh bien, en tout cas, Jacques Morican, merci d'être venu au studio.
Merci
à vous. Et espérant aussi vous entendre prochainement.
Volontiers, merci à vous.
Bonne soirée.
Interview.
Au revoir.
Okay, the bird.